bienvenue à tous dans l'actualité de ce mardi. Des manifestants deux fois moins nombreux que jeudi dernier, mais la grève dans les transports continue. Pas d'amélioration notable attendue demain. Vous verrez comment les syndicats ont constitué un trésor de guerre pour aider les grévistes. Les dernières pistes du gouvernement pour sortir de l'impasse sur les régimes spéciaux et la date d'entrée en vigueur de la réforme, Édouard Philippe pourrait annoncer demain des assouplissements. Notre enquête sur le crédit à la consommation. 10 millions de Français ont emprunté pour acheter une voiture ou faire des travaux ou équiper leur maison. Les taux ont rarement été aussi bas. Dans ce journal également, l'appel au retour. Le gouvernement portugais offre une forte somme d'argent à ceux qui ont émigré à l'étranger, souvent en France, pour revenir au pays qui a besoin de main-d'œuvre. Enfin, nous irons admirer une merveille naturelle dans les Pyrénées, d'immenses colonnes formées par l'érosion. On les appelle les cheminées de fées. Nos reporters vous offriront une vue imprenable. Pour une fois, le gouvernement et la CGT sont d'accord. Le nombre de manifestants dans les rues a diminué de moitié en 5 jours. 339 000 selon le ministère de l'Intérieur, 885 000 selon le syndicat. Mais les grévistes semblaient déterminés. À quelles conditions seraient-ils prêts à arrêter le mouvement? Justine Corbillon et nos équipes sur le terrain leur ont posé la question.
Ils étaient 180 000 selon les syndicats, 31 000 selon la police. Moins de monde que la dernière fois, mais ceux qui étaient là n'étaient pas moins déterminés. Les enseignants, par exemple.
Sur les estimations, je vais perdre entre 700 et 800 euros bruts par mois. Ça représente un SMIC à la retraite, donc je me vois très mal passer 43 ans de ma vie devant les élèves pour gagner un SMIC à la fin.
Et quand on lui demande ce qui pourrait lui faire changer d'avis?
Ce serait une revalorisation de notre métier et de nos salaires, évidemment. Jean-Michel Blanquer nous a envoyé un courrier deux jours avant la manifestation nous promettant une augmentation. L'augmentation va s'élever à 50 euros net par mois.
Le privé aussi est descendu dans la rue. Christophe est ingénieur automobile chez Renault et n'attend rien des annonces du gouvernement. Il ne veut pas de la retraite à points.
On ne sait même pas ce que sera la valeur du point demain.
Si la valeur est inscrite dans la loi, c'est une piste. Est-ce que ça pourrait rassurer?
Mais dans la loi de 2020, mais dans celle de 2021, 2023, vous savez rien du tout.
Cette avocate, elle, était d'accord pour réformer les retraites. Partir plus tard, par exemple, mais pas pour un régime universel.
Alors, on peut toujours modifier des choses, mais là, on a un nivellement par le bas. On ne peut pas faire un système universel parce que personne n'est dans la même situation et personne ne le sera jamais.
Enfin, les femmes sont inquiètes, sur la question des pensions de reversion notamment.
On peut accéder à cette pension à partir de 55 ans, ça va être repoussé à 62 ans. Il faut être retraité pour en bénéficier. Une veuve qui est active, qui n'est pas retraitée, elle n'aura plus sa pension de reversion.
La crainte partagée par tous les manifestants aujourd'hui, que d'éventuelles concessions annoncées demain concernent certains métiers, mais pas les autres, et entraînent une division du mouvement.
Toutes branches confondues, le nombre de fonctionnaires en grève a beaucoup baissé depuis jeudi. Selon les chiffres du gouvernement, 6% des agents de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux ont cessé le travail aujourd'hui. C'est une moyenne, bien sûr. Les cortèges, eux, n'étaient pas seulement à Paris. Les rassemblements ont également eu lieu à Lyon, à Marseille, ainsi que dans des villes plus petites. C'était le cas à Albi, dans le Tarn. Que réclament les manifestants? Pascal Michel et Jean-Vincent Fournis.
Albi n'a pas l'habitude de voir autant de monde dans ses rues. 3000 manifestants selon la préfecture, 5000 selon les syndicats. C'est moitié moins que jeudi dernier, mais c'est tout de même la preuve que la mobilisation est au rendez-vous.
La retraite, je pense, mobilise tout le monde et concerne tout le monde. Je dirais même les enfants qui ne sont pas encore nés.
Sur ce projet-là, tout le monde y perdra. Il n'y a pas d'histoire de nanti ou de pas nanti, tout le monde y perdra.
Les dernières manifestations d'importance à Albi datent de 2010. La défense des retraites était déjà au cœur des préoccupations. Cette fois, les enseignants se sentent particulièrement pénalisés. C'est le cas de Karine, professeure des écoles depuis 20 ans.
On va globalement, comme tout le monde, perdre de l'argent. Mais en plus, on va en perdre en plus, puisque nous n'avons pas de prime. Nous avons un salaire plutôt bas, qui reste très longtemps bas.
À Albi, près d'un emploi sur deux se trouve dans le secteur public, majoritairement représenté aujourd'hui. Dans le défilé, les agents hospitaliers en grève depuis le 13 juin. Parmi eux, Françoise, 57 ans, infirmière depuis 30 ans.
Nous avons des horaires variables, nous travaillons 24 heures sur 24, nous sommes au contact de l'humain en permanence et la pénibilité, il ne faut pas la perdre.
Les retraités, qui représentent un tiers de la population d'Albi, étaient également très présents cet après-midi.
On a travaillé pour nos parents, nos enfants travaillent pour nous et on voudrait que ça suive.
L'annonce demain du projet de réforme des retraites ne mettra pas un terme aux manifestations. Les syndicats ont déjà annoncé un nouveau défilé ce mercredi à Albi.
Ce soir, plusieurs ministres sont réunis à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour tenter de mettre à plat, si possible de manière compréhensible, cette réforme des retraites. Demain, à la mi-journée, Édouard Philippe présentera ses conclusions. À 20h, il répondra à nos questions dans ce journal. Quelles sont les dernières pistes? Jusqu'où le gouvernement peut-il lâcher du lest? Alice Tassin.
Dans les salons de l'Élysée ce soir, c'est veillée d'armes. Un dîner autour du président de la République, du Premier ministre, des ministres Agnès Buzyn, Gérald Darmanin, des membres de la majorité, François Bayrou, Richard Ferrand. Premier mis dans la confidence, tous chargés demain de défendre les arbitrages sur les retraites. Sur la table, l'épineuse question des générations concernées. Pour le régime universel, la réforme ne devait toucher que les personnes nées après 1963. Date reculée, on parle désormais de 1973, voire 1975. Et cela devrait être encore plus tard pour les régimes spéciaux. Le nouveau système ne pourrait concerner que ceux nés après 1983. Des concessions arbitrées ce soir, annoncées demain. La fixation d'un âge pivot est aussi dans les tuyaux. Édouard Philippe l'a redit cet après-midi à l'Assemblée.
Il faut dire la vérité aux Français. Cela passe progressivement par un allongement de la durée de travail.
Toutes ces mesures seront-elles suffisantes pour désamorcer le conflit? Même le Premier ministre en doutait ce matin en confiant à huis clos aux députés.
Je ne crois pas aux annonces magiques. Ce n'est pas parce que je fais un discours que les manifestations vont cesser.
L'intervention de demain ne semble donc n'être qu'une étape pour l'exécutif.
Je vous le disais, demain soir à 20h dans ce journal, Édouard Philippe répondra à nos questions et donc à vos interrogations sur cette réforme des retraites. Comme prévu aujourd'hui, cette sixième journée de grève dans les transports a provoqué des bouchons monstres sur les routes d'Île-de-France. Plus de 400 km d'embouteillage ce matin à 8h et vous le voyez, le périphérique est encore très encombré. 12 heures plus tard, comment les franciliens se sont-ils rendus au travail? Comment sont-ils rentrés chez eux? François-Xavier Ménage et Maud Gatineau ont suivi leur parcours du combattant.
Des trajets de plus en plus longs, de plus en plus incertains. Cette jeune femme fait très rapidement le calcul quotidien.
4 heures, on va dire.
4 heures tous les jours, depuis le début de la grève. Dans des trains de banlieue bondés, avant de marcher une heure dans Paris jusqu'à son bureau. Et une fois au travail, difficile de se concentrer.
Déjà, quand j'arrive le matin, je pense au soir, déjà, directement. Donc comment je vais faire, comment je vais rentrer, est-ce qu'il y a des transports, il y a un transport, il n'y aura pas.
Dans cette gare parisienne, la cohue pour les 450 000 usagers journaliers. Voilà pour l'ambiance sur les quais de Saint-Lazare. Vous allez voir maintenant que dans les rues de Paris, l'objectif pour beaucoup, c'est de marcher le plus vite possible. Élodie est partie du sud de Paris, à pied. 1h15 plus tard, la voilà perdue.
C'était là, non? Ben oui, c'était là. N'importe quoi.
Pour continuer à fonctionner, son entreprise a trouvé des locaux facilement accessibles. Une solution pour quelques jours seulement, mais ça ne suffit pas. Deux tiers des salariés sont coincés à la maison. Alors c'est vidéoconférence.
On avoue que aucune possibilité de venir.
Cette start-up travaille sur le bien-être au travail. La grève ralentit considérablement le calendrier.
C'est bien la galère et pour nous la rentrée de janvier, elle est clé pour notre nouveau produit. Donc on va faire avec.
Avec des écoles parfois fermées toute la journée, c'est le système D pour garder les enfants. On va voir notamment comment ça se passe dans cette boutique.
Voilà, mais toi là, et tu fais premier...
Atelier paquet cadeau pour Elias, 8 ans, privé d'école. C'est sa maman commerçante qui s'occupe de lui.
Je suis contente de ne pas avoir école et ça ne me manque pas.
Ce qui manque à sa maman, ce sont les clients. Depuis 6 jours, presque aucun métro, presque aucun chiffre d'affaires.
En tant que mère célibataire même, mais ça m'impacte moins la grève des professeurs que celle des transports.
Demain, la grève se poursuivant, Elias va pouvoir travailler son atelier jeux vidéo.
Lorsqu'on s'éloigne de la région parisienne, quelles sont les conséquences visibles de la grève? Pour le savoir, nous sommes allés à Saint-Quentin, dans l'Aisne. 54 000 habitants, des transports en commun, des écoles, des administrations, des commerces. La ville vit-elle au ralenti? Reportage François Ouasson et Thierry Chartier.
C'était le train à ne pas rater, le seul TER ce matin entre Saint-Quentin et Paris. 6h46, en ce deuxième jour de grève, les Picards bouleversent une nouvelle fois leurs habitudes.
La galère, c'est que je me suis levé à 5h du matin pour arriver très tard à mon lieu de destination. Ras-le-bol, oui.
Un TER sur 10 aujourd'hui contre 1 sur 100 jeudi dernier. Mais pour cette lycéenne, pas de chance, pas de train, retour à la maison.
Un dernier moment est annulé.
Vous allez sécher le cours ?
Pas sécher, mais pas y aller.
À Saint-Quentin, 54 000 habitants, la grève est moins suivie que la semaine dernière. La Poste, le centre des impôts, le tribunal fonctionnent normalement. Pas de problème sur le réseau de bus, il est géré par une compagnie privée, même si ce chauffeur aurait bien débrayé.
Bah pour garder nos acquis pour la retraite, tout simplement.
Les plus inquiets, ce sont les commerçants. 30% de fréquentation en moins jeudi dernier pour ce restaurateur. Et ce midi, c'est encore plutôt calme. Et il ne faudrait pas que ça dure, car pour les fêtes, il a embauché 5 personnes supplémentaires.
Donc la crainte, évidemment, c'est de se retrouver avec du personnel et de ne pas avoir de clients.
Et c'est vrai, cet après-midi, Saint-Quentin avait des allures de désert, loin de l'ambiance habituelle de la période des fêtes.
D'autres catégories de fonctionnaires étaient aussi en grève. Les enseignants, selon le ministère, 13,6% étaient en grève, des chiffres contestés par les syndicats. Globalement, le mouvement a été moins suivi que jeudi dernier. Pourtant, certaines écoles sont restées fermées. Comment les parents se sont-ils organisés ? Exemple à Nantes avec David Desarrojo et Frédéric Petit.
Des portes closes, des réfectoires vides. Ce matin, 8 écoles étaient entièrement fermées à Nantes, 7 fois moins que jeudi dernier. Moins de professeurs grévistes, mais un accueil pas toujours garanti pour l'étude, ou comme ici, pour la cantine. Aujourd'hui encore, les parents ont dû s'adapter.
Moi, mon petit, il n'avait pas école. Le grand, il avait école, mais il n'y avait pas de cantine, donc c'était très compliqué, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix.
Je vais peut-être voir aussi avec des amis qui ont aussi le même problème pour que ça s'organise. Certains, à certains jours, viennent prendre le mien et moi, je prendrai le leur.
Pas facile de s'organiser, de quitter le bureau pour aller chercher son enfant à midi.
Allez.
Frédéric Goutin a dû s'absenter quelques heures du travail pour s'occuper de Jules, son fils de 3 ans.
Tu vas retourner à l'école après ? Tu vas faire la sieste ? C'est compliqué de s'absenter tous les jours, donc... en attendant, on espère que ça va s'arrêter bientôt.
Les familles, qui n'avaient aucune solution de garde, ont pu se tourner vers la mairie.
Gérer au jour le jour, c'est pas forcément évident, mais nous avons aujourd'hui un système qui nous permet de répondre à l'urgence par une application, par un site internet, par des affichages devant les écoles, une inscription via une plateforme téléphonique pour ouvrir dès le lendemain le lieu d'accueil pour le service d'accueil.
75 enfants ont ainsi été pris en charge par des animateurs dans ce centre de loisirs. Ce sera de nouveau le cas demain. Des préavis de grève pourraient être déposés jusqu'aux vacances scolaires.
Bonsoir Thomas Jarion, vous êtes en direct avec nous de la gare Saint-Lazare à Paris. La circulation des trains sera encore très perturbée demain. Demain, 7e jour de grève.
Oui, elle sera très perturbée, mais il y a une légère amélioration pour les TGV, 1 sur 4 en moyenne. Et à partir de demain, la SNCF garantit que tous les trains prévus jusqu'à dimanche rouleront. Très légère amélioration aussi du côté des intercités, 1 train sur 4 en moyenne de prévu. Demain, 8 allers-retours assurés sur la ligne Paris-Rouen. Le Havre met toujours pas de liaison entre Nantes et Bordeaux, par exemple. En revanche, aucune amélioration pour les trains régionaux. Toujours 3 trajets sur 10 assurés, principalement grâce à des bus de substitution. Enfin, si vous êtes en région parisienne, il vous sera toujours très difficile de prendre un RER ou un métro. 10 lignes sur 16 seront à nouveau fermées demain.
Merci beaucoup, Thomas. À la SNCF, on en parlait à l'instant, on a compté 24,7% de grévistes, 77% parmi les conducteurs, des grévistes qui ne seront pas payés, mais qui comptent néanmoins tenir longtemps. Comment vont-ils faire ? Principalement en puisant dans une cagnotte un trésor de guerre que se sont constitués les syndicats. Enquête Anaïs Barthes, Emma Vinzan et Florence Couturon.
Axel et Vladimir sont tous les deux conducteurs de train et en grève depuis jeudi.
Bah, moi, c'est à peu près 80 euros de moins par jour, à peu près, parce que c'est ce que je gagnerais par jour, sachant que moi, je fais partie des plus gros salaires de la SNCF, comme je suis conducteur de train.
Ils gagnent en moyenne 2300 euros net par mois. Pour compenser cette perte de salaire, ils comptent sur leur prime de fin d'année.
Effectivement, ma maîtresse et moi, mais en fait, tout le monde comptait dessus pour les cadeaux de Noël. C'est quelque chose sur lequel on a fait le choix, pour beaucoup, de faire l'impasse. On ne l'aurait pas eu, on aurait eu le même état d'esprit dans tous les cas.
Un sacrifice financier, car ces jours de grève ne sont pas payés. Pour permettre aux salariés de tenir dans le temps, les organisations syndicales se mobilisent. La CFDT, par exemple, dispose d'une caisse de grève de 126 millions d'euros, alimentée depuis plus de 45 ans par les cotisations de ses adhérents. Ils peuvent percevoir 7,30 euros de l'heure. Ce syndicat est une exception. Les autres centrales ne disposent pas de telles réserves.
La RATP à la SNCF, si les syndicats payaient les adhérents qui font grève, en une journée, ils dépenseraient 1,5 million à peu près d'euros. Donc c'est beaucoup, il faut payer plein d'adhérents qui font grève. Donc les syndicats n'ont pas les moyens de le faire.
Alors comment font-ils pour les aider? Traditionnellement, les syndicats comptent sur les dons des Français qui les soutiennent, notamment grâce aux cagnottes en ligne. La CGT Cheminots, par exemple, a déjà récolté près de 700 000 euros.
Nous, les caisses de grève, ça sert surtout, mais réellement, à gérer des urgences pour des familles qui seraient vraiment dans le besoin.
Dans tous les cas, tous assurent ne pas utiliser les aides allouées par l'État pour dédommager les grévistes.
C'est sans doute la question que vous vous posez, quel que soit votre âge et votre métier. Quels seront les effets concrets de cette retraite à points, si elle est mise en place? Le meilleur moyen de le savoir est de partir en Suède. Le pays a adopté ce système il y a 20 ans. Avec quel résultat? C'est ce qu'ont voulu savoir Marie Demarc et Hélène Massieu en passant quelques jours à Stockholm.
Ce soir-là, près de Stockholm, des sexagénaires venus s'informer sur les conditions de départ en retraite et le montant des pensions. La plupart pourraient déjà s'arrêter de travailler, mais tous semblent avoir la même préoccupation.
J'hésite à partir maintenant. Combien est-ce que ça va me rapporter si je travaille quelques années de plus?
Pour ça, il faut faire une simulation sur le site internet.
Des réunions comme celle-ci sont organisées presque tous les jours pour faire passer le message.
La pension versée par l'État est disponible à partir de 61 ans. Mais c'est à 65 ans que les gens reçoivent la retraite complémentaire financée par les entreprises.
En Suède, chaque jour travaillé apporte des points de retraite. Plus les carrières sont longues, plus les pensions sont importantes. Certains Suédois vont même bien au-delà. C'est le cas de Marianne. Elle est consultante en ressources humaines et à 72 ans, elle travaille 2 jours et demi par semaine. Grâce à cet emploi, Marianne double sa pension et s'assure une retraite confortable.
Aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir des pensions aussi importantes qu'avant, parce que le système de retraite a changé. Donc, tout le monde doit chercher un bon emploi.
Pour sa responsable, qui a 25 ans de moins, le système encourage le recrutement des retraités.
Elle nous coûte moins cher que les autres parce qu'il y a des exonérations de charges pour l'employeur qui embauche des retraités.
Marianne continue de travailler parce qu'elle en a envie. Mais certains retraités n'ont pas le choix. Avec la réforme du système opérée il y a 20 ans, le montant des pensions a baissé pour 92% des femmes et 72% des hommes. En cause, la méthode de calcul. Auparavant, les 15 meilleures années de salaire étaient prises en compte. Désormais, c'est l'ensemble de la carrière.
Mais c'est pas populaire, hein, c'est pas du tout populaire. Mais c'est parce que l'espérance de vie a augmenté beaucoup plus qu'on a prévu pendant les années 90.
La Suède a donc décidé d'allonger la durée du temps de travail pour équilibrer son système de retraite. Alors nous sommes allés demander ce qu'ils en pensaient à plusieurs salariés de cette entreprise. Ici, les plus jeunes ont commencé à travailler après la réforme. Et certains s'interrogent sur les limites du modèle.
Pour moi, ce ne sera sans doute pas un problème de travailler plus longtemps, parce que j'ai un emploi de bureau. Mais pour les gens qui ont des métiers physiques, c'est sûr que ce sera difficile d'aller au-delà de 65 ans.
Tous disent faire confiance au système public de retraite. Pourtant, la plupart assurent ces vieux jours avec un plan d'épargne privé.
Les retraites publiques sont indexées sur la situation économique du pays. Et personne ne sait ce que ça donnera dans le futur. Surtout pas moi qui n'ai que 37 ans.
D'ici 2026, l'âge de départ minimal pour percevoir la pension versée par l'État va encore reculer et passer de 61 à 64 ans en Suède.
En France, parmi les professions en grève aujourd'hui, les internes en médecine, ils dénoncent le manque de moyens à l'hôpital, mais aussi leurs conditions de travail. Ils sont un maillon essentiel dans le fonctionnement des hôpitaux. Certains travaillent non pas 35 heures, mais 70 heures par semaine. Julien Roux et Clément Biais ont passé la journée à l'hôpital du Chesnay, en région parisienne.
Elles ont choisi le covoiturage pour se rendre à l'hôpital. Et ce matin, ces deux infirmières sont même arrivées en avance.
Bonjour. Alors, comment s'est passée la route ?
Bah écoutez, étonnamment bien, je pensais qu'il y aurait beaucoup de circulation et avec ma collègue, on était partis beaucoup plus tôt.
Elles ont mis seulement 20 minutes contre 40 hier pour faire 15 km de trajet. Aujourd'hui, c'est surtout la grève des internes en médecine qui se fait ressentir à l'hôpital. On en compte habituellement 12 à la maternité.
Et là, j'en ai un tiers qui sont en grève.
Alors comment on fait ?
On priorise, premièrement, les urgences et la salle de naissance. Deuxièmement, les urgences au bloc opératoire. Et puis, ce qui va être plus périphérique, les consultations qui peuvent être reportées, tout ce qui peut être différé, le sera.
Priorité pour l'hôpital, assurer la continuité des soins. Pour faire face à des grèves qui pourraient durer, une cellule d'alerte a été créée et un hébergement d'urgence est proposé.
Exemple là, une salle de formation qui a été transformée pour pouvoir y mettre des lits pour accueillir nos professionnels. Pour l'instant, elle n'a pas encore été utilisée.
Et pour s'assurer que les grèves n'affectent pas la prise en charge des patients, l'hôpital a fait des réserves de médicaments.
Notamment, vous voyez, au niveau des antibiotiques, on a un peu de stock, que vous voyez au-dessus des étagères, qui n'existe pas d'habitude. On a anticipé pour essayer d'avoir 3-4 semaines de stock jusqu'à début janvier.
Elle n'a pas attendu le mois de janvier pour pointer le bout de son nez. Léa est née hier.
C'est vrai que ça s'est déclenché au pire moment, finalement.
7h du matin, en plein bouchon. Thomas et Jennifer doivent se rendre à l'hôpital.
On s'est retrouvés avec presque une heure de route au lieu de 25 minutes. Mais on a eu la chance d'avoir la police qui nous a escortés.
Pas d'escorte prévue en revanche demain pour le retour à la maison.
La grève, les manifestations et la réforme, des sujets qu'abordera Julien Arnaud dans le Grand Journal sur LCI. Rendez-vous à 23h, Canal 26. L'actualité, c'est aussi l'arrestation près de Bordeaux d'un groupe de la mouvance Black Bloc qui s'apprêtait, selon la police, à passer à l'action violente. Quel est le profil des suspects et comment ont-ils été interpellés ? Enquête sur place, Erwan Brem et Christophe Brousseau.
Les policiers sont intervenus 2 heures avant le début de la manifestation de samedi. Une opération musclée dans ce quartier huppé de l'agglomération bordelaise. Dans cette maison, 16 hommes et femmes, âgés de 19 à 45 ans, sortis sous les yeux des passants.
Il y avait des policiers partout, il y en avait qui étaient cagoulés. Ça a été impressionnant parce qu'entre le temps où les voitures se sont garées et qui sont descendues, ils ont fait leur intervention, ils sont partis, ça a été vraiment très rapide.
Dans l'appartement, les policiers de la brigade de recherche découvrent tout un attirail. Des gants, des masques, mais beaucoup plus inquiétant, des bouchons cloutés, de l'acide chlorhydrique, des mèches et de nombreuses bouteilles vides. Un équipement particulièrement dangereux.
On a trouvé des bidons avec une substance inconnue qui sont partis à l'analyse depuis ce week-end. Donc il y a encore un gros travail à faire pour identifier précisément ce qu'ils avaient. Le premier résultat le plus important, c'est qu'ils n'étaient pas à la manifestation samedi dernier. Et avec le matériel qu'ils avaient, ça aurait pu faire des policiers blessés en nombre important.
10 des 16 membres du groupe étaient connus par les services de renseignement pour leur appartenance à l'ultra-gauche. 5 avaient déjà été condamnés. 14 condamnations pour l'un d'entre eux, notamment pour vol à main armée. 7 condamnations pour un autre, pour vol avec violence, entre autres. Leur provenance, Nouvelle-Aquitaine en majorité, mais aussi Rhône-Alpes et Île-de-France. Ils s'étaient retrouvés dans l'appartement loué sur Airbnb et seraient à l'origine de plusieurs graffitis anti-policiers dans la ville, tagués jusqu'au mur du commissariat de quartier.
ACAB, ça veut dire « tous les flics sont des bâtards ». On a de plus en plus de menaces non dissimulées, des tags un peu partout dans la ville, des photos de collègues qui circulent sur les réseaux sociaux. Ça devient insupportable.
Tous les membres du groupe ont été mis en examen pour association de malfaiteurs. 3 dorment en prison, les 13 autres sont placés sous contrôle judiciaire.
Certains d'entre vous ont acheté une voiture, d'autres ont fait des travaux dans leur logement. L'an dernier, près d'un Français sur 5 a souscrit un crédit à la consommation. Le marché est à son plus haut depuis 2010. Il est aujourd'hui possible d'emprunter en quelques clics sur un smartphone et les taux ont rarement été aussi bas. Voici donc non pas une invitation à s'endetter, mais quelques conseils très avisés, signés Pierre Galassio, Fabienne Moncel et David Sane.
Ça ne lui a pris que quelques minutes sur son téléphone portable. Pour la première fois de sa vie, cet étudiant a emprunté de l'argent pour se payer un week-end dans un parc d'attractions.
J'ai emprunté donc là 120 euros, donc que j'ai étalé moi sur 4 mensualités, donc avec un taux environ de 3%, ce qui me permet d'avoir la somme instantanément.
Simple, rapide, Hugo compte bien réitérer.
Là j'ai l'intention de m'en servir parce que j'ai une assez grande famille, donc là ça va me servir pour les cadeaux surtout.
À l'approche de Noël, les offres de crédit à la consommation prolifèrent, sur internet notamment, où les taux d'intérêt affichés n'ont jamais été aussi bas. Nous avons effectué une simulation. 5000 euros, remboursables en 2 ans, coût total du crédit, 276 euros. Des taux plus bas qu'il y a 10 ans, et des emprunteurs dont le profil a changé.
Et vous vous êtes rendu compte de nouvelles tendances avec cette étude?
On voit qu'il y a un moindre accès au crédit des catégories populaires et particulièrement des ouvriers. On est passé de 28% en 2010 à 25% en 2018. Et c'est en grande partie lié aux effets des lois Lagarde et Hamon qui ont restreint l'accès au crédit.
Moins d'ouvriers, mais plus de jeunes et surtout plus de seniors désireux de se faire plaisir à la retraite.
Ah, mais bon,
depuis peu, il y a même des crédits sans aucun taux d'intérêt. Cette banque en ligne propose de payer uniquement des frais fixes pour de petits emprunts.
Alors on a lancé cette offre juste avant le Black Friday. On constate une appétence puisqu'on a plus de 100 souscriptions par jour. On réserve cette offre à des clients qui sont éligibles et qui sont capables de rembourser.
S'endetter à moindre frais n'a donc jamais été aussi facile. Alors attention.
C'est très risqué en fait parce qu'on ne se rend pas toujours compte du montant des échéances que ça crée. Parce qu'après, en janvier, il y a des nouvelles choses, puis il y a des soldes du blanc, puis il y a des promotions, puis on prépare les vacances, et ça y est, on est parti vers le surendettement.
Enfin, autre tendance relevée par cette étude, le recours à l'emprunt plutôt qu'aux économies pour les Français qui ont les moyens de rembourser rapidement.
À 20h24, je voulais vous faire part de cette offre surprenante, mais bien réelle, faite par le gouvernement portugais. Le pays est à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Et depuis juillet dernier, les autorités portugaises offrent 6500 euros aux immigrés portugais qui retournent dans leur pays d'origine. C'est le grand format très étonnant de ce 20h. Il est signé Fabien Chadeau et Bruno Poiseuil.
Juan Pédago, 27 ans, codeur informatique, termine sa journée. Il a rendez-vous avec ses amis pour un apéritif au centre de Lisbonne. Des retrouvailles après 4 ans d'absence. Pendant la crise, Juan a perdu son emploi. Il cherche alors à l'étranger. C'est à Dublin, en Irlande, qu'il trouve un poste bien payé, mais très vite, il a le mal du pays.
Donc, c'est difficile de tout recommencer, de repartir à zéro. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des relations. Finalement, mes amis, ma famille me manquaient.
Ici, la vie est plus spontanée. Il y a une spontanéité dans les relations qu'il n'y a pas, par exemple, dans les pays anglophones.
Comme eux, après la crise de 2008, 400 000 Portugais, plus d'un travailleur sur 10, est parti à l'étranger chercher du travail. Souvenez-vous, dès 2011, une cure d'austérité drastique. Baisse des salaires des fonctionnaires, baisse des retraites, hausse des impôts. Toutes ces mesures ont porté leurs fruits. En 7 ans, le chômage a été divisé par 2. Certes, le Portugal est sorti de la crise, mais aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter. Pour faire revenir ses ressortissants, le gouvernement a mis en place un programme baptisé Regressar, en français, rentrée.
Ce programme m'a permis de financer le déménagement et le voyage. Et surtout, et c'est je pense le plus important, de bénéficier d'une baisse d'impôts qui compense le salaire plus faible, ici, au Portugal.
Une aide qui peut atteindre jusqu'à 6 536 euros par personne, à laquelle s'ajoute une baisse de 50% d'impôts sur le revenu pendant 5 ans. Seule condition, les bénéficiaires doivent avoir déjà travaillé au Portugal.
C'est indispensable pour l'économie de notre pays de leur offrir la possibilité de rentrer dans de bonnes conditions. Ça nous permet de résoudre le problème du manque de main-d'œuvre. Et comme ceux qui rentrent sont souvent jeunes avec des enfants, cela nous permet aussi de lutter contre le vieillissement de la population.
Qu'en pensent les entreprises? Est-ce efficace pour recruter? Pas sûr. Dans cette PME spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques, la principale difficulté, selon cette DRH, c'est le niveau de rémunération.
Regressar ne permet pas de compenser les écarts de salaire. En rentrant, les Portugais expatriés vont perdre en pouvoir d'achat. Et ça, je ne suis pas sûre qu'ils l'acceptent.
Pour cette autre entreprise d'une trentaine de salariés prestataires de l'industrie pharmaceutique, le dispositif tombe à pic. Depuis 5 ans, elle essayait en vain de convaincre l'un de ses ingénieurs partis vivre au Brésil de rentrer.
C'est lui qui nous a parlé du programme Regressar. En voyant les avantages pour lui et pour nous, nous avons tous été convaincus. Il a donc décidé de rentrer au pays.
Depuis la mise en place du programme courant septembre, une centaine de Portugais seulement sont rentrés au pays. Le gouvernement table sur 3000 retours d'ici fin 2020. Et n'exclut pas de reconduire le dispositif dans les années à venir.
Je vous emmène à présent dans le magnifique département des Pyrénées-Orientales, très précisément à l'Isle-sur-Tête, pour découvrir des cheminées de fées, on les appelle aussi les demoiselles coiffées. Ce sont des colonnes de roches géantes ciselées par les intempéries et par l'érosion pendant des millions d'années. Ces grandes orgues sont à l'origine de nombreuses légendes et croyances. Suivez nos guides Élise Stern et Lucas Garcia.
C'est une sculpture dont le temps seul a le secret. Ces histoires se dévoileront peut-être en plongeant le regard dans ces reliefs. Hautes d'une douzaine de mètres, des colonnes de sable et d'argile érigent un temple naturel. En son centre, dessiné par l'érosion, les orgues ont donné leur nom au site.
C'est beau, hein ? Ouais. On prend plein les yeux, là. Plein les mirettes, là.
On voit rien de la route, on s'imagine pas qu'il y a ça, quoi. Donc c'est une vraie surprise quand on arrive ici. Et puis c'est magnifique, quoi. Quand on regarde tout autour, on se dit que c'est des sculptures qui sont éphémères.
Aux orgues d'Isle-sur-Tête, rien n'est dû à la main de l'homme. Ce sont les pluies qui ont patiemment ciselé ces falaises. Leur forme inspire les récits de Caroline Lopez, guide sur le site et conteuse.
L'œil dans la falaise, le trou, voilà, qui symbolise l'œil. À gauche, la trompe et la bosse caractéristique des mammouths. Non, voilà, lui aussi, je l'ai intégré dans une histoire qui fait partie du lieu.
Un lieu unique qui fait la fierté des Pyrénées-Orientales. 110 000 visiteurs s'y rendent chaque année et chacun s'approprie le paysage.
Ça fait penser un peu au Grand Canyon. C'est très, très joli. On peut tout imaginer, là, en regardant, on voit différentes figures.
On a l'impression, même quand on prend des photos, on se demande si c'est pas à l'étranger. Et en fait, non, c'est en France, quoi.
Vieille de 5 millions d'années, ces colonnes très friables sont surmontées d'une couche plus solide. C'est ce qu'on appelle des cheminées de fées.
Cette couche qui est au sommet, donc, comme elle est imperméable en raison de la présence de l'argile, a protégé le sable et les sédiments en dessous et a empêché le temps de les faire disparaître. C'est grâce à elle que le site a voyagé à travers les airs jusqu'à nous.
Kevin Gouberne est devenu guide ici en 1997. Il connaît les orgues comme personne.
J'ai grandi au-dessus du site des orgues chez ma tante. Et je veux dire, ce site, c'est une espèce de petit jardin qui m'a accueilli et qui me permet de vivre aujourd'hui.
Il nous révèle un point de vue secret. Ce terrain privé qui domine le site, une maison familiale dans laquelle ont grandi ses cousins.
Moi, je viens souvent à n'importe quelle heure, même des fois à la tombée de la nuit, faire des photos. C'est jamais pareil, quoi. C'est toujours en évolution. C'est des secrets de la famille.
On pouvait passer à pied de ce côté-là où nous sommes, jusqu'à l'autre côté où on voit les arbres là-bas. Et avec mon frère, on allait jouer dans les arbres. Moi, je suis complètement chez moi sur les orgues. C'est mes orgues, en fait. J'ai bien pouvoir.
Et ce panorama vertigineux n'est pas la seule richesse du jardin. Derrière les oliviers, le chemin mène à une plantation de chênes.
Cherche, attends, cherche. Allez, cherche.
La surprise se cache à quelques centimètres sous terre.
Regarde, c'est un terrain qui n'est absolument pas propice à la truffe, puisqu'il n'y a absolument pas de calcaire. Donc le propriétaire, Adrien, a bichonné ses arbres comme il fallait le faire et arrive à trouver pas mal de truffes. C'est la magie des orgues.
Même la magie des orgues ne peut pas protéger les lieux du temps. Sous l'effet des intempéries, les reliefs fondent jusqu'à disparaître dans quelques centaines d'années. Mais à quelques kilomètres, il existe une autre formation qui se dessine dans le granit. Des orgues moins connues et réputées inaccessibles. Pas pour Thierry de Rolez, ce passionné de nature a trouvé un accès à pied.
La partie accessible au public est très 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 jolie, mais c'est confiné, c'est petit, quoi. Ici, on voyage. J'ai même pas assez d'une vie pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir.
Pour poursuivre le voyage, voici notre véhicule. Ce petit ULM piloté par Jean-Louis Régis. Il vole dès qu'il le peut depuis 31 ans. Au-dessus des orgues, c'est un spectacle changeant, partagé seulement avec ses passagers.
C'est ce côté sauvage qui m'a passionné. Et je me dis qu'il n'y a pratiquement personne qui vient du voir.
Jour après jour à Isle-sur-Tête, la pluie et le vent découpent les formes des orgues. Le soleil y appose sa palette de lumières et de couleurs. Une œuvre unique et sans cesse renouvelée.
Splendide reportage. Je vous retrouve dans un instant pour votre mag et pour la météo d'Evelyne Delia. Nous irons à la rencontre d'Hugo, un garçon passionné par la danse. Il a très vite compris qu'il allait devoir surmonter des idées reçues, des préjugés pour réaliser son rêve, devenir comme ses idoles Nouriev ou Baryshnikov, danseur professionnel. A tout de suite. Et entre deux entraînements chez lui à Rennes, la danse, discipline très exigeante, est pratiquée à 86% par des filles. Mais cela ne l'a jamais découragé. Regardez son portrait signé Thierry Coiffier, Michael Merle et Elodie Dubosc.
Devenir danseur, bah, je sais pas, ça m'est venu comme ça à l'idée. À 3 ans et demi. Rugby, foot, judo, papa et maman m'ont demandé ce que je voulais faire et je leur ai dit non, 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 moi je sais ce que je veux, faire de la danse. Quand je danse, déjà, ça me fait partir toute la mauvaise humeur. Ça, c'est émotionnel, quoi.
Il danse tout le temps, partout dans la maison familiale, sur tous les styles de musique. Le corps en perpétuel mouvement. Quelle énergie!
Il n'arrête pas. En fait, c'est une pile électrique. On, off. Matin, soir, voilà.
Bon, j'ai une consultation pédiatrique à la sentinelle pour venir.
Il est accroché.
Béatrice et Hervé ont adopté Hugo au Mali, alors qu'il n'avait que 8 mois.
C'est le plus beau moment d'une vie, quoi. La rencontre avec Hugo, enfin, j'ai tourné les larmes aussi, ouais.
On nous avait précisé, cet enfant est un bébé qui exprime fortement ses émotions. C'est la seule info qu'on avait. Et ça s'est confirmé tous les jours, en fait.
Dans son parcours d'enfant adopté et par rapport à tout ce que ça suscite comme question pour lui, d'avoir trouvé la danse, la musique, comme lieu d'expression non-verbale. Ouais, c'est vital pour lui. C'est vraiment vital.
Hugo prend des cours de danse 2 fois par semaine dans cette école près de Rennes. Il y apprend la danse classique, mais aussi le modern jazz.
3, 4, 5, 6.
Ce jour-là, il est le seul garçon dans la salle.
Ça fait pas bizarre, au contraire, d'être avec les filles, bah, parfois ça peut faire du bien. Surtout que j'ai des anciennes amoureuses dans ce cours, donc
Le samedi matin, Hugo prend des cours de batterie. La musique, sous toutes ses formes, voilà ce qu'il fait vibrer.
La batterie, j'aime bien jouer. C'est drôle, le son.
T'adores ça, la musique, hein?
Oui.
Quel que soit le domaine, que ce soit le corporel, et Dieu sait qu'en batterie, il y a un peu de corporel quand même aussi, ou le musical, il y a une fibre artistique, hein, très clair.
Bonjour, monsieur Durie. Je m'appelle Hugo, j'ai 8 ans, je veux devenir danseur. Je serais très honoré de pouvoir faire votre stage de danse, Hugo.
Une lettre adressée à Jean-Philippe Durie, ancien danseur du ballet de l'Opéra de Paris et chorégraphe.
Allez, relâche-toi, ne sois pas timide.
Et voici Hugo au plus près de son rêve, face à la scène du couvent des Jacobins de Rennes.
Je me suis retrouvé d'un seul coup comme 30 ans en arrière. Et je me dis, en fait, c'est vraiment magnifique. Il y a encore des petits garçons qui rêvent, qui ont des souhaits de devenir artistes et qui vivent avec leur passion.
Hugo a été sélectionné pour participer à un atelier dirigé par le danseur.
Vous voulez descendre chaque pied, vraiment.
Le voici,
aidez-vous.
Dans la cour des grands.
Je voyais ça moins dur, mais je me suis quand même un peu sorti. Je suis très content d'être venu.
T'auras 20 ans, par exemple, comment tu te vois?
J'aimerais bien quand même monter sur la scène, faire quelques ballets pour prouver à tous les enfants qui n'aiment pas la danse. La danse, c'est quand même mon rêve et c'est quelque chose que j'aime, quoi.
Sacré caractère, sacrée personnalité. Bonsoir, ma chère Evelyne.
Bonsoir, Gilles.
Et il paraît que pour demain, vous nous annoncez un pas de deux assez magnifique avec la pluie.
Oui, et la raison, eh bien, tout simplement, c'est une perturbation qui va faire le grand écart du nord au sud. Et déjà aujourd'hui, la dite perturbation est arrivée à petits pas par le nord-ouest, la voici. Alors que dans l'ensemble, ce fut un temps calme, souvent ensoleillé. Petit tour ce soir du côté de La Ciotat, dans le vieux port, joli port, avec certes du vent, ça se voit très bien, mais vous n'aviez, si j'ose dire, que 13 degrés
avec un ciel bien bleu, alors que pas très loin, à Toulon, c'était certainement beaucoup plus protégé. Vous aviez eu, cet après-midi, 20 degrés. Alors, sous les nuages, un petit peu de pluie, un petit peu dans un premier temps, mais ces pluies vont se renforcer au fil des heures. Et pour cause, c'est que, bien évidemment, cette perturbation va profiter d'une petite faiblesse de l'anticyclone qui file un peu pour passer. Et puis, à l'arrière, on a ce qu'on appelle un petit front secondaire, ici, avant l'arrivée de cette autre perturbation, pour les jours suivants. Donc demain matin, on va retrouver les deux. Déjà, la perturbation d'aujourd'hui, donc installée, qui fait le grand écart du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec des pluies parfois soutenues d'ailleurs dans le sud-ouest, de la neige en montagne. Notre petit front secondaire qui, dans la matinée, va apporter pas mal d'instabilité sur la Bretagne et qui va s'étaler, lui aussi va faire le grand écart de la Normandie jusqu'aux Landes, avec même quelques coups de tonnerre et du vent. Et puis la perturbation, en se décalant, vous apportera à nouveau de la neige en montagne, à basse altitude d'ailleurs, sur les reliefs de l'Est, entre 600 et 700 mètres. Vous aurez pas mal de nuages près de la Méditerranée, mais pas sur la Corse. Et puis, entre les deux, quand même, quelques éclaircies. Voici les températures de la matinée, fraîches, d'ailleurs sur le flanc est, hein, 0 à 1 degré, même moins 1 du côté de Grenoble, jusqu'à 8 degrés aussi bien pour La Rochelle que pour les Biarrots. Et dans l'après-midi, les températures sont à peu près équivalentes à celles d'aujourd'hui sur le nord, 10 degrés tout de même le long de la Loire. On ira jusqu'à 15 degrés dans le sud, 10 degrés pour Toulouse, ce que vous aurez aussi à Albi. Alors, la suite, on a vu qu'il y avait encore forte affaire avec une nouvelle perturbation qui d'ailleurs va arriver jeudi, avec des pluies soutenues, avec du vent, de la neige sur les Pyrénées. À l'est, vous aurez un temps sec, ensoleillé d'ailleurs sur un bon quart sud-est, avec des températures d'ailleurs douces dans l'après-midi. Et puis cette perturbation va tout naturellement se décaler sur le flanc est pour la journée de vendredi jusqu'aux Pyrénées, avec à nouveau beaucoup de neige en montagne, à l'arrière de l'instabilité, vous connaissez l'histoire, beaucoup de vent au pied des Pyrénées et sur la Méditerranée. Et puis pour le début du week-end, samedi, un bon coup de vent certainement encore sur le nord du pays et près de la Méditerranée avec la perturbation dans le sud. Dimanche et lundi, à peu près la même chose, donc le soleil se devrait être essentiellement dans le sud, avec toutefois ses entrées maritimes. Et mardi, régime d'averse. Demain, nous fêterons les Daniels. Et puis Gilles, pour terminer, nous allons partir en Suède, tout au nord du pays où se trouvent les reines, où vivent les reines, peut-être les reines du Père Noël. En tout cas, leur problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les chutes de neige sont souvent remplacées par de la pluie qui forme une pellicule de glace au sol, ce qui empêche les reines de trouver facilement leur nourriture, à savoir des lichens qui sont sous la neige.
Avec